Delta FM.
Pump up the volume.
Get unspotted.
Aplati. Informative. Radio. Innovation pédagogique.
25 ans LP2I, ça se fait,
ça se fait.
Vous êtes bien sur Delta FM 90.2. Alors aujourd'hui c'est une journée assez spéciale parce que ce sont les 25 ans du LP2I et nous recevons dans les studios de Delta FM Monsieur le recteur, Monsieur Bianchotto, bonjour.
Bonjour.
Et Monsieur le maire de Jeune-Éclan, Monsieur Giraud, bonjour.
Bonjour.
Alors je vais vous poser la première question, Monsieur Bianchotto. Pour vous, que représentent les 25 ans du LP2I ?
Il me semble que ce que nous avions créé il y a 25 ans en imaginant quelques résultats, a finalement abouti. Le lycée vit bien, il a continué sur sa lancée, en se modifiant bien sûr, mais il est toujours là et il continue à jouer le rôle qu'on avait espéré pour lui.
Très bien. Et pour vous, Monsieur Giraud ?
Bien, c'est la concrétisation de ce qu'avait voulu Monsieur Monory sur le site du Futuroscope, qui était de créer un instrument à trois pieds, le parc de loisirs, qui était dévolu, comme son nom l'indique, à la distraction, le parc d'activités, qui était dévolu au travail, et un ensemble qui représentait la formation et l'éducation. Le LPI, puisqu'à l'époque, il n'y avait que le I de innovation, le LPI était le symbole même de ce désir d'associer deux activités, travail et loisirs, d'associer l'éducation à la formation, et ces 25 ans constatent la parfaite réussite de ce projet.
Monsieur Bianchotto, nous savons que le bâtiment du LP2I n'était pas fait à la base pour accueillir des élèves. Pourquoi ce revirement de situation ?
Je ne suis pas sûr de comprendre la question, parce que le bâtiment a bien été fait dès l'origine pour accueillir des élèves. Non, ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention, c'est que lorsque l'on fait un concours en vue de construire un bâtiment public, il y a des architectes qui présentent différents projets et il y a une commission, pour les lycées c'était une commission du conseil régional qui examine les projets. Et cette commission, dont je faisais partie, avait jugé que ce projet de lycée tel qu'il était présenté n'était pas suffisamment fonctionnel par rapport à ce qu'on attendait. Et la commission avait choisi un bâtiment beaucoup plus classique, mais qui paraissait répondre davantage aux besoins de l'éducation. Et c'est M. Monory qui a balayé toutes nos conclusions et qui a retenu le projet tel qu'il est. Il est évident qu'il est beaucoup plus spectaculaire. Il a peut-être posé quelques problèmes au départ. On a vu la coupole s'envoler. On a eu quelques problèmes pour travailler dans certaines salles parce que les murs penchés en sens inverse, ça donnait un peu le vertige. Mais disons que je crois que maintenant, tout ça est bien entré dans les pratiques du lycée et que l'on est content de voir l'établissement tel qu'il est.
Alors moi, j'ai une autre question pour vous, Monsieur Giraud. Vous étiez à la création de la ville du futur. Pensez-vous qu'elle réponde aux attentes du président Monory ?
Oui, je crois que Benoît Monory était, puisqu'il a vu très largement l'accomplissement de l'ensemble de ce projet, était très satisfait de la façon dont cela a évolué. Et il reviendrait aujourd'hui, je crois qu'il sera encore plus satisfait parce que non seulement bâti les murs, si je puis dire, mais tous ceux qui sont succédés depuis ont rempli de sens et de signification ces murs. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, la réussite correspond tout à fait, et même au-delà des souhaits que nous pouvions avoir à l'époque. Pour revenir une seconde sur, je peux me permettre pour compléter ce que disait Monsieur le recteur, pourquoi ce choix finalement dans l'architecture que Monsieur Monory a imposé ? D'abord, ce n'est pas la première fois qu'il le faisait, il nous l'a fait souvent ce coup-là, où il nous demandait notre avis, mais finalement il tranchait comme lui il l'entendait. C'est parce que dès le départ, il a considéré que puisque nous voulions faire de cet endroit un témoignage du futur à venir, il fallait se délivrer d'une architecture qui représentait le passé ou le présent. Et donc, il était toujours extrêmement sensible au contenant contrairement à d'autres réalisations qui se sont faites dans le monde, où le contenu peut être très intéressant, mais le contenant est très banal. Et donc lui, il voulait que déjà le premier coup d'œil montre qu'on se projetait dans l'avenir. Et je pense que dans le choix qu'il a fait de cette architecture très futuriste, hein, on voit bien cette forme de triangle qui ça peut faire penser à un vaisseau de l'espace ou autre, il y avait ce besoin de dire, ça y est, vous êtes déjà dans le futur, quand vous êtes là, vous êtes déjà dans le futur. Je pense qu'il y avait cette réflexion assez profonde derrière.
Très bien, merci. Monsieur le recteur, pensez-vous que d'autres implantations de lycées pilotes innovants soient utiles à l'éducation nationale ?
Bon, c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, parce que d'abord, il faut peut-être se rendre compte que nous ne sommes plus exactement dans la situation d'il y a 25 ans. Les constructions d'éducation nationale avaient été longtemps négligées par un État qui dirigeait tout du centre. La centralisation dans tous les ministères, mais en particulier dans l'éducation, avait été dramatique pour bien des choses. Je me rappelle le moment où le Conseil général, sous la présidence de M. Monory, a pris en main les collèges. La situation était tout à fait catastrophique. Et je me le suis fait entendre dire par le président. Bon, je représentais l'État, bien entendu. Mais maintenant, les régions ont, en règle générale, bien pris en compte, la plupart au moins, ont bien pris en compte les besoins de l'éducation. Et par conséquent, les locaux ont été aménagés, ce qui a manqué peut-être dans beaucoup de cas, mais l'horizon n'est peut-être pas assez large pour répondre d'une façon catégorique, c'est que on a construit des bâtiments banals sur des projets banals. Et qu'il manquait peut-être ce supplément d'âme, quelque chose qui fait qu'un établissement se focalise autour d'un certain nombre de concepts, d'idées communes, d'envies communes. Et je crois que c'est ce qui manque dans beaucoup de cas. Et une fois qu'un établissement fonctionne, c'est très difficile de modifier les choses.
Alors, Monsieur Giraud, nous vous demandait, y a-t-il eu des difficultés dans l'aventure de la vie du futur ? Par exemple, lors de votre discours, vous disiez que ce lycée ne répondait pas réellement à un besoin de place.
Oui, j'ai dit cela, ce n'est pas une difficulté. Hein. C'était simplement pour manifester que ce lycée est né d'une volonté de création et ne répondait pas à l'époque, comme ça peut être le cas, et c'était le travail de M. le recteur d'ailleurs, de vérifier et de veiller à ce que les besoins puissent être remplis par des établissements. Et je n'ai pas le souvenir qu'à l'époque, il y avait un besoin pressant de créer un nouvel établissement pour accueillir des élèves qu'on ne pouvait pas accueillir dans d'autres endroits. Donc j'ai dit cela simplement pour dire que c'est ce qui a présidé à la création de ce lycée, c'était au contraire la volonté de faire un établissement en avance sur son temps, qui allait expérimenter de nouvelles méthodes d'éducation, et que ça n'était pas simplement le fait de faire une place supplémentaire pour dans cet esprit-là. Alors les difficultés, il y en a eu d'innombrables, bien évidemment. Un projet de cette ampleur est une succession de difficultés qu'on a pu résoudre au fur et à mesure. J'évoquais tout à l'heure l'achat d'une cinquantaine d'hectares. Il y avait des gens qui habitaient, il y avait des maisons qui habitaient. Donc il a fallu que j'aille expliquer à des gens qui habitaient là depuis longtemps, que notamment il y avait une ferme qui était là depuis peut-être, 150, 200 ans, je ne sais plus. Il fallait que j'aille leur expliquer que ça y était, le moment était venu de partir, d'aller habiter ailleurs, qu'il fallait laisser la place. Bon, tout ça n'est pas facile, bien évidemment. Mais avec du temps, avec de la patience, avec de la pédagogie un peu, il faut expliquer aux gens pourquoi. On est petit à petit arrivé, on a pu faire toutes ces acquisitions sans exproprier quiconque. Donc voilà. Alors après, vous parliez d'anecdotes, je me souviens, je ne sais pas si M. le recteur s'en souvient, le jour de l'inauguration, M. Monory était un homme toujours très pressé. Il fallait que les choses soient finies avant même qu'elles ne soient commencées. Le jour de l'inauguration, je me souviens, il y avait le président Fauchard, vous vous en souvenez aussi, qui faisait son discours, puis on était les officiels, là on était en rang, comme ça se fait d'habitude. Et qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait une goutte qui tombait du plafond, parce qu'il pleuvait ce jour-là, une goutte qui tombait du plafond, parce que les finitions n'étaient pas faites, si vous voulez, le toit n'était pas encore complètement étanche. Et on voyait pendant les discours, au fur et à mesure que les discours se suivaient, on voyait cette mare qui continuait à grandir, et tout le monde se disait, mais on va se finir par tous se faire arroser. Bon, le lycée n'était pas fini, mais on l'inaugurait déjà. Et moi, il m'a demandé de construire le gymnase qui est juste en face. Dès le moment où on a commencé à poser la première pierre, il m'a dit, il faut que vous fassiez un gymnase en face, parce que les élèves, il faudra bien qu'ils aient des installations sportives. Donc on a construit le gymnase, on a fait un nouveau terrain de sport, alors qu'on avait ce qu'il fallait déjà à Chaudiclan, mais on n'allait pas vous faire descendre jusqu'en bas. Donc, vous voyez, il y a eu une succession comme ça de problèmes, mais ça, c'est la vie. Hein. On est là pour résoudre les problèmes, on n'est pas là pour les fuir.
Je voudrais revenir en un mot sur le jour d'inauguration. Il se trouve que j'ai dû déplaire à quelques conseillers de Jacques Chirac à Matignon à l'époque, si bien que je suis retourné à l'université, disons 5 semaines avant l'inauguration. Mais j'étais présent à l'inauguration parce que j'ai été invité par le proviseur. Enfin, mais donc, il se trouve que ce n'est pas mon nom qui figure sur la plaque, mais celui de mon successeur.
Ah oui.
C'est la continuité de l'État, ma foi, c'est tout à fait normal.
Alors, j'ai une dernière question, d'abord à vous, M. Biakoto. Nous voulons distribuer des tablettes tactiles, mettre les télécommunications au cœur de la pédagogie de ce lycée. Pensez-vous que ça va toujours dans la même continuité
Très probablement, mais je ne pense pas que ce soit moi qui faille poser la question. Parce que si j'ai réussi, à mon âge, à me mettre à la pratique de l'ordinateur pour mon travail et pour communiquer, je ne suis pas tout à fait au point pour ce qui est, par exemple, des tablettes tactiles. Je suis un praticien des manuscrits médiévaux. Donc, j'aime bien avoir une matière riche entre les mains, des manuscrits bien enluminés. C'est tout autre chose, bien entendu, qu'une tablette tactile. Je pense que ça peut avoir énormément d'intérêt. On peut mettre des centaines d'ouvrages sur une tablette. Ça permet de lire pendant de longs voyages en train ou en avion. Pour le reste, comme instrument d'éducation, je ne vois pas comment ça peut être utilisé, donc je laisse ça à d'autres.
Vous avez un mot là-dessus, Monsieur Giraud ?
Oui, moi je suis de la même génération que Monsieur le Recteur, donc nous avons été habitués à tenir du papier entre les mains et à étudier à partir de documents écrits. Cela dit, personnellement, je considère que c'est un immense progrès d'avoir l'accès maintenant direct à une foule d'informations à partir d'un clavier ou d'une tablette. En substance, la tablette ou le clavier, il n'y a pas de différence. Hein, c'est simplement, c'est plus commode une tablette, effectivement, quand on se déplace ainsi de suite. Mais on a donc accès à une foultitude d'informations. On a un mode de lecture qui devient différent parce que on peut tout de suite garder en note une partie de ce qui nous intéresse dans le document, retrouver facilement un épisode ou des personnages, toute chose qu'on fait plus difficilement avec un livre. Donc, conjuguer les deux est quelque chose de bien. J'éprouve toujours beaucoup de plaisir à tenir un livre entre les mains, mais je me suis mis à la lecture aussi par tablette et j'y éprouve d'autres satisfactions. Puis alors, quand on veut lire un ouvrage en langue étrangère, quelquefois on n'a pas le mot présent à l'esprit, on a tout de suite le dictionnaire sous les yeux. Donc on a un autre accès, c'est quelque chose de différent et de complémentaire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pour moi c'est l'un et l'autre.
Eh bien, je vous remercie, messieurs. Vous êtes sur Delta FM 90.2. Au revoir.
Art plastique, informatique, radio, innovation pédagogique.
25 ans LP2I, ça se fête!